et il est l'heure de retrouver l'émission Écriture dessinée. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Aujourd'hui, on va parler de la guerre de sécession. Alors, c'est une guerre qui est peu présente dans notre imaginaire collectif. Le roman de Stephen Quayne, The Red Badge of Courage, est écrit en 1895, 30 ans après la fin de la guerre, et il dresse un récit à hauteur d'homme, loin des stratégies militaires et des mouvements de troupes. En adoptant ce roman, Steve Cusor reprend cette vision aux côtés des soldats de la grande bataille de Chancellorsville. À travers les regards d'Henry Fleming, jeune soldat livrant sa première bataille, nous sommes à ses côtés, sur les champs des opérations enfumées, dans ses attentes éprouvantes, en proie aux doutes profonds. Steve Cusor sera avec nous vers 14h15 pour qu'il nous accompagne sur le terrain de cette guerre universelle. A tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous avez entendu, Fabien est aux manettes. Et la programmation musicale a été sélectionnée, choisie par Steve Cusor. On écoutera successivement Tyler Childers, Johnny Cash et Dropkick Murphys. Un très beau programme. Une brève pour démarrer. Samedi 24 février, à Entrée Libre, cette librairie montpelliéraine au 1 de la rue Voltaire. Il y a une soirée soutien au dernier cri avec un haut programme, la signature de Nico Frems, Renaud Leplot et Torti et Matt Conture qui seront là. C'est à partir de 18h. Alors le dernier cri est un atelier de sérigraphie né en 1993. Il imprime des images aux antipodes de la narration et de l'illustration conventionnelle. Le dernier cri édite livre d'artiste, des images, du poster à encadrer ou en tirage limité. Et c'est avec une maîtrise de l'ensemble de la chaîne de production, création, édition, diffusion, que le dernier cri crée des œuvres d'art totales, mais également sonores et visuelles. On peut remercier Paquito Bolino et cette soirée de soutien est à mon avis indispensable pour cet éditeur militant. Les Shadocks. Alors vous l'avez entendu tout à l'heure en présentant l'entretien qui aura lieu tout à l'heure avec Steve Cusor, il était question d'adaptation littéraire. Alors je voudrais démarrer cette émission par deux livres qui concernent Robert Louis Stevenson. Et le premier, eh bien, c'est l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Cette fois en livre illustré. C'est une façon également de redécouvrir les grands classiques de la littérature. Pas simplement en les adaptant en bande dessinée, mais en faisant des versions illustrées, mais avec un travail d'illustration un petit peu particulier, qui change de ce qu'on avait l'habitude de voir assez classiquement sur les formats poche, par exemple. Alors, l'illustrateur, c'est Vincent Maillet, et donc c'est un auteur de bande dessinée qui a aussi des talents d'illustrateur et qui apprécie en tout cas cette façon d'associer dessin et œuvre littéraire. Alors c'est pas simplement de l'illustration, le terme n'est pas très approprié, parce qu'il s'agit vraiment d'une relecture, un peu comme le disait Tardy lorsqu'il a adapté Céline dans la collection Gallimard Futuropolis. Alors, quelques précisions sur cette présentation, ce livre illustré. Il y a déjà un texte intégral, ça c'est indispensable, c'est un très grand format avec de grandes images. il y a pour le dessinateur Vincent Maillet une possibilité de travailler spécifiquement, d'avoir ce dessin nomade que permet le principe du texte illustré. On est dans des ambiances graphiques très différentes de celles, par exemple, de son dernier diptyque Ténébreuse. Il y a vraiment chez cet auteur un attachement à l'illustration, à cette relecture de dessinée de grands textes littéraires. Il y a d'ailleurs un triptyque avec des illustrations de Vincent Maillet. On a donc cet étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, mais il y a aussi un Sherlock Holmes et un Arsène Lupin. Alors, le principe de la grande image, c'est vraiment d'avoir une évocation d'ampleur de cette période de l'Angleterre où on est dans des endroits à la fois bourgeois et très populaires. Et il y a un travail du trait, notamment sur le regard de ce Mr. Hyde qui fonctionne à merveille. L'étrange cas de Dr. Jekyll et de Mr. Hyde est donc le roman dessiné avec des dessins, devrais-je dire, qui fait 80 pages, son prix de 22 euros. C'est publié par les éditions Margaux et le livre est imprimé en Belgique. Alors cette fois, c'est les moustiques que nous écoutons. Merci Vincent Malone. Alors, autre Stevenson, c'est ce voyage avec un homme dans les Cévennes, qui est un livre que beaucoup connaissent dans notre territoire, et bien sûr à juste titre. Alors, il y a une version en bande dessinée qui vient de paraître. Il y a eu des versions également dessinées à la manière de celle du travail de Vincent Maillet. Et là, c'est Christian Périssin et Michael Sterkman qui ont œuvré pour adapter librement ce récit de Robert Louis Stevenson. Alors, nous sommes en septembre 1878, Stevenson a 28 ans, il vient de rompre avec Fanny Osborne, qui est une Californienne de 10 ans, son aînée, elle est mariée, elle est déjà mère, elle est artiste peintre. Ils se sont rencontrés dans une communauté en France. Et après cette rupture, Stevenson part marcher et il va traverser les Cévennes depuis Monastier jusqu'à Saint-Jean-du-Gard. Il est accompagné de l'ânesse Modestine. Donc c'est une façon pour lui de se confronter au silence de la nature, de se confronter à sa beauté et de croiser à plusieurs reprises les grands moments de l'histoire qui ont marqué les Cévennes comme la révolte des Camisards. Alors ce livre va vraiment se distinguer par le projet narratif qui est associé à cette adaptation. Michael Sterkman, ça fait quelques années qu'il n'a pas publié, et c'est un auteur qui choisit d'adapter son dessin au projet narratif. Alors, je pourrais citer par exemple deux livres précédents, comme Le Prince aux Plumes, qui est un récit pour la jeunesse publié aux éditions Milan, ou Les 100 000 journées de prière, qui était une collaboration avec Lou Huifang. Alors, à chaque fois, il y a une forme graphique différente, avec un travail au trait pour les deux livres que j'ai cités, et qui va se transformer, qui va évoluer vers ce travail de dessin avec un lavis sans trait de contour comme on avait l'habitude de le voir. Donc il y a déjà cette volonté de s'adapter à ce projet. Il y a dans ce voyage avec un âne une représentation d'une région avec son histoire. Là, donc, nous sommes à la fin du 19e siècle. Il y a donc des ambiances à redonner. Puis il y a cette nature que Stevenson traverse et elle a des côtés assez magnifiques. Et puis toutes les rencontres qui sont faites sur le chemin avec différentes personnes, des paysans, des aubergistes, des personnes à qui il demande l'hospitalité et qui lui refusent. Et il y avait donc un parti pris à prendre pour représenter graphiquement les ambiances sévenoles. Et c'est pleinement réussi puisque Michael Sterkman va choisir un travail graphique d'une grande simplicité qui ne cherche à aucun moment à être spectaculaire, qui va être imprégné d'une douceur, d'une beauté, comme celle que l'on peut voir dans la nature. Et il va nous inciter, nous emmener avec lui sur ses parcours. On pense à un peintre comme Jean Hugo, avec notamment la même façon de représenter les arbres, de représenter les habitations, les villages, une sorte de simplicité. Ce n'est pas une représentation naïve, mais c'est une représentation dont Michael Sterkman a évacué tous les effets, toutes les facilités. Il y a après le récit de Stevenson qui comporte un certain nombre d'étapes, de rencontres, de moments forts, de moments de grande plénitude et d'autres au contraire avec des doutes importants. Et il y a notamment différents rêves qui marquent ce périple. C'est un livre très connu qui, sous la plume de Christian Périssin, qui est un scénariste qui a déjà un certain nombre de séries, qui a parfaitement adapté le récit pour une mise en image dessinée. Et puis Michael Sterkman, qui avec ses options graphiques qu'il a choisies, ses partis pris, fait que ce récit fonctionne parfaitement. Il y a le choix d'un trois bandes, d'un texte qui est écrit avec précision, qui n'est pas très réduit en taille, mais qui en tout cas permet une lecture très facile. Et il y a un mariage entre cette façon d'écrire les textes et les images qui fonctionne également à merveille. C'est important, de transmettre cet amour des Cévennes que Robert Louis Stevenson a eu et qu'il nous avait transmis avec ce voyage avec un âne. C'est un livre qui a été publié par les éditions Futuropolis. Les 176 pages de ce livre sont au prix de 23 euros. Et je voudrais vous donner, mais je crois que... non, je ne crois pas que ça ait été publié. Et non, je ne vous dis pas où ça a été publié, parce que ça n'a pas été publié ni en France ni en Belgique. On découvre les Tyler Childers. On fire, baby, you can turn into cinder and smoke, 'cause the house is mighty cold and I feel like melting all the snow away. Le combat d'Henry Fleming nous immerge en pleine guerre de sécession. Nous sommes aux côtés de ce jeune soldat de 18 ans, au cœur d'une bataille inspirée de celle de Chancellorsville. Quand vient le moment des combats, après les attentes interminables, Henry Fleming se trouve dans la violence des charges, la poussière des champs de bataille qui sème la confusion, la mort omniprésente, des désertions en masse évoquées, et puis le doute paralysant. Adapter ce roman de Stephen Crane est un défi. Il a révolutionné la littérature américaine à la fin du 19e siècle, je vais y arriver. Steve Cusor reprend une palette restreinte, comme dans 5 branches de coton noir, charge ses images de noir puissant. Nous sommes avec Fleming dans ces sous-bois inextricables, dans la poussière épaisse des champs de bataille, anéantissant les différences entre les soldats. Avec un sens aigu des cadrages, de la mise en scène, révélant une gestion du temps du récit remarquable, Steve Cusor fait de la guerre de sécession vécue par Fleming une guerre universelle, dont les violences vont bien au-delà des passes d'armes du terrain, des prises de décision des généraux, des morts. La folie est au cœur de cette guerre entre Américains. Steve Cusor évacue le contexte et impose cette angoisse de chaque guerre. Steve Cusor est avec nous pour nous présenter les coulisses de son adaptation du roman de Stephen Crane. Bonjour Steve Cusor.
Bonjour.
Alors, quand vous avez lu le roman de Stephen Crane, qu'est-ce qui se passe pour et comment le projet naît de son adaptation ?
Alors j'ai lu le roman alors que je le connaissais déjà sans l'avoir lu. Alors je connaissais depuis une bonne vingtaine d'années, 20-30 ans, ouais, à peu près, parce que j'ai fait un séjour aux États-Unis et j'ai vu que c'était étudié dans beaucoup de collèges, et notamment avec un questionnaire à la fin du roman, souvent orienté un peu vers le patriotisme, enfin bon, qu'est-ce que la lâcheté, qu'est-ce que le courage, etc. Et je me suis dit, il serait peut-être temps, voilà, de me plonger dans cette lecture. Et quelque chose qui m'attirait au début, c'était ce côté guerre de sécession, tiens. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de nouveau qu'on n'aurait pas encore raconté. Et là, je vous avoue que ça a été une vraie claque parce que effectivement, on raconte tout sauf la guerre de sécession, et c'est ce qui m'a vraiment plu, c'est ce ton universel. Et ce n'était ni l'histoire d'une guerre, ni l'histoire quelque part d'un soldat, mais c'était l'histoire de ce que ressent un soldat. Et à ce moment-là, le propos devenait oui universel, contemporain, parce que tout le monde a ces sentiments-là, que ce soit l'attente, le doute, la peur, nos petites lâchetés de tous les jours, voire les grandes lâchetés qu'on peut avoir devant on va dire une situation qui nous échappe. Et là je me suis dit que je tenais le bon sujet, dans le sens où oui, c'était pas la grande histoire avec un grand H, mais celle des sentiments universels.
Steve Cusor, vous avez tout de suite choisi d'être auteur complet sur cette adaptation ?
Oui, parce que je venais de faire 5 branches de coton noir avec Yves Sant, qui m'avait proposé cette magnifique histoire autour de la ségrégation et de la place des Noirs américains au sein de l'armée américaine. Et c'est vrai qu'à travailler à deux, alors il y a un gros avantage, c'est qu'on peut vraiment se répondre et faire jouer au ping-pong quelque part, c'est-à-dire à partir d'une première proposition, essayer de rehausser certains choix et certaines vues qui puissent être encore plus fortes. Là, d'être seul, enfin donc, pour reprendre ça, c'était aussi, il y a des concessions à faire, c'est vrai. Et du coup, sur Red Badge of Courage, vraiment, je me suis dit, là, c'est ton petit bébé, vas-y, adapte ce truc qui est quand même... oui, un monument de la littérature américaine, et prend le temps qu'il faut. Mais j'avais besoin, oui, de passer par l'adaptation, faire des choix, parce que le roman par moment, part un peu dans plusieurs directions. Et donc, tenir ce choix, c'était aussi avoir une ligne un peu éditoriale, une ligne narrative, et puis une liberté, en termes de narration, de pouvoir rajouter des cases, rajouter des scènes aussi de guerre qui me paraissaient pas forcément assez longues par moment. Et donc, c'était un vrai retour sur mon propre travail, finalement, de tout faire tout seul.
Alors, comment se passe le passage de la lecture au premier jet de l'adaptation? Comment ça se passe? Vous évacuez, vous isolez des moments de texte qui vont devenir une séquence d'une, deux ou trois pages? Comment visualisez-vous, je vais y arriver, cette transition?
Alors, il y a plusieurs étapes de lecture. C'est-à-dire, il y a la lecture du lecteur qui prend plaisir à lire une histoire. Il y a la deuxième lecture qui est plus attentive, c'est-à-dire essayer de comprendre le fond de ce qui se dégage principalement du roman et de cette histoire. Ensuite, dans la troisième, quatrième lecture, je dirais que c'est le moment des choix. C'est-à-dire, c'est le moment où vous vous dites quel est le bouquin que je veux faire. Et justement de se tenir à une ligne et d'évacuer quelque part tout ce qui pourrait venir perturber cette ligne. Alors moi, en ce qui me concerne, il y avait un long passage de Henry Fleming qui fait ses au revoir à sa mère, qui s'imagine aussi en train de défiler dans la rue principale du village où voilà, il se fait acclamer comme un héros qui part à la guerre, etc. Il est en train de fantasmer la guerre. Et c'est vrai que cette partie-là lui donnait quelque part presque trop d'humanité. C'est-à-dire quand je me suis dit, si je raconte cette partie-là, je vais m'engager, justement pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que je vais raconter l'histoire d'un soldat et d'un seul. Or, mon propos à moi, ce que je retenais du reste de la lecture, c'était que ça pouvait être n'importe quel gars qui est justement sur ce champ de bataille, c'est-à-dire ça peut être aussi bien un nordiste qu'un sudiste, mais ça peut aussi être pendant une autre guerre, ça peut aussi être, j'avoue, n'importe quel employé dans une entreprise, voilà, qui a aussi des conflits avec le fait d'être face à un groupe, par exemple, un syndicat ou n'importe, à ses patrons, enfin, et qui développe les mêmes sentiments universels. Et une fois que j'ai bien déterminé ce que moi je voulais raconter, à ce moment-là, la toute dernière lecture du roman, c'est de souligner exactement les propos qui vont dans ce sens-là. Et très vite, je me mets à écrire comme un scénariste. C'est-à-dire, là, j'ouvre les pages et j'écris un vrai storyboard, écrit, un vrai scénario, synopsis, comme si quelqu'un d'autre allait le dessiner. J'ai besoin de me mettre dans la peau d'un scénariste, d'écrire, voilà, planche une, case une, description du décor, des personnages, les dialogues, parce que ça me permet d'avoir une première proposition et éventuellement d'y revenir au fur et à mesure et d'aller au-delà. Ce qui me permet effectivement d'avoir déjà une vision de tout l'ensemble du livre écrit. Et après seulement, je me mets effectivement à faire un storyboard dessiné et les pages.
Alors, la guerre de sécession, c'est vraiment une guerre fratricide, donc entre deux parties des États-Unis, le Nord et le Sud, qui s'opposent avec le Sud, donc qui veut faire sécession. Il y a sur les champs de bataille une poussière très intense, où on a du mal à discerner, et on sent tout à fait que c'est bien sûr volontaire, les soldats les uns des autres, le drapeau des uns des autres. À quel moment vous avez choisi, Steve Cusor, de gérer cette confusion et sa mise en image?
Alors l'ambiance et le décor interviennent énormément dans cette bande dessinée, et je savais que ce serait l'acteur principal, celui qui viendrait soutenir les doutes d'Henry Fleming, parce que à côté de ça, c'est quand même un combat intérieur, hein. Chez Henry, c'est effectivement une désillusion, c'est quand même quelqu'un qui fantasme la guerre avant de partir, qui la voit comme quelque chose de très flamboyant, limite spectaculaire, avec sabre au clair, enfin, et puis une fois arrivé, c'est l'attente qui dure. Et du coup, le doute, la peur qui s'installe, la peur de ce qu'ils vont devenir, enfin de ce qui va leur arriver à tous. Et la, je dirais que la poussière, la fumée, c'est, alors ça recoupe aussi un fait matériel du champ de bataille de l'époque, c'est que le premier ennemi du soldat, c'est quand même son fusil. C'est-à-dire que quand on est toute une ligne d'une centaine de gus à tirer en même temps, le fusil déclenche donc un halo de fumée devant. Donc vous imaginez le mur de fumée qui s'installe devant la vision de ces gars qui viennent de tirer. Alors est-ce que le gars en face est mort ou est-ce qu'il est en train de courir à travers le brouillard et qui va vous sauter dessus? Ça, c'est toute la question. Et ça jouait un vrai rôle dans cette angoisse permanente, c'est-à-dire cette angoisse de mourir, mais cette angoisse de ne pas comprendre ce qui se joue à travers ce brouillard. Et qu'effectivement, est-ce que le type que j'aperçois dans la fumée ou dans le brouillard, c'est un de mes collègues ou est-ce que c'est un type d'en face? Et je pense qu'il a dû y avoir plusieurs fois des bavures dans ce style. Et donc ce n'était pas que du décor pour moi, enfin du décor pour représenter le côté historique de la chose, mais vraiment que ce soit un pan narratif à part entière, hein, vraiment comme un sentiment que pouvait ressentir Henri. Et le lecteur, il est aussi attaché aux images qu'il lit. Et contrairement au roman qui est très écrit, c'est-à-dire qu'il y a peu d'images qui se dégagent quand on lit, moi, il a bien fallu que j'en crée des images. Et c'est vrai que quand Crane nous parle de cette fumée, de cette poussière, de ces fantômes qui s'en dégagent, et puis de ces masses sombres qui avancent vers vous, en parlant de l'ennemi, il y a un moment où il faut traduire ça en images. Et il n'y a pas le choix. Et donc, de ne pas trop en montrer, c'est aussi savoir suggérer tout en étant hyper précis et très présent.
Steve Cusor, quelle documentation avez-vous utilisée pour cette mise en image? Est-ce qu'elle doit être importante? Parce qu'il y a les armes, il y a les costumes, il y a les lieux aussi. Comment avez-vous travaillé pour ça?
Alors un travail comme ça, enfin moi qui suis plutôt dessin très réaliste pour le coup et très très ancré, donc très noir et blanc, tout est basé sur la lumière. Alors je suggère beaucoup, c'est-à-dire que je suis très peu attaché, je dirais, au côté historique justement des armes, etc. Par contre, je veux pas me tromper. C'est pas parce que je mets pas trop l'accent dessus qu'il faut complètement se planter. Mais pour moi, le principal, c'est de jouer effectivement sur la lumière. Donc, sur énormément de cases, je m'arrange aussi pour planquer pas mal de choses dans l'ombre, parce que j'aime bien travailler la silhouette et pas forcément voir que le gars qui est en train de courir a tout ce qu'il faut autour de lui, que ce soit la sacoche, ses balles, enfin bon, c'est son fusil, tout ce qu'il lui faut. Ça m'intéresse peu. Moi, ce que je veux raconter, c'est vraiment quelque part ce qu'il est en train de subir et ce qu'il est en train de faire. Alors pour le coup, on est bien obligé, oui, de s'entourer de beaucoup de documentation. En tout cas, moi, c'est mon cas, j'en ai besoin. J'ai besoin de me nourrir de tout ça pour savoir quoi en retenir. Mais au moins que tout soit là, effectivement, et une fois que tout est là, pouvoir donner ce contraste, cette ambiance, cette silhouette. Mais ça peut aller de reconstitution qu'on peut trouver à droite à gauche sur Internet. Il y a beaucoup de gars qui se réunissent tous les ans pour fêter tel ou tel anniversaire. Donc ça aide aussi à comprendre les mouvements de troupes, déjà. Pour quelqu'un qui a jamais fait la guerre, et notamment celle de sécession, il y a un moment où il faut comprendre comment ces gars bougeaient et évoluaient. Et puis pour être au plus proche aussi de quelque chose de crédible. Et donc il y a beaucoup de photos d'époque, il y a beaucoup de reportages, de films, enfin bon, il y a beaucoup de... La guerre de sécession, c'est une des premières guerres où il y a beaucoup de documents. Donc ça, c'est une chance. Ça, c'est un besoin d'être nourri continuellement.
Steve Cusor, je vous propose qu'on écoute le deuxième choix de cette émission que vous avez fait, c'est donc Johnny Cash. À tout de suite.
À tout de suite.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt.
You stay the hell away from me, you hear?
I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way.
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes avec Steve Cusor à l'occasion de l'édition de son livre Le combat d'Henry Fleming, adapté du roman de Stephen Crane. Steve Cusor, vous l'avez dit, vous avez un dessin réaliste, alors c'est manifeste. Comment est-ce qu'il y a une possibilité d'adapter le dessin, la mise en scène, la gestion des temps du récit au moment d'un projet comme celui du combat d'Henry Fleming? Est-ce que vous savez comment votre dessin va s'adapter au récit et par exemple aussi avec ses cadrages et ses découpages en trois bandes souvent très régulières?
Alors moi, le dessin, il vient de la lecture du scénario. Alors le scénario, on le voit pas forcément, on le voit plus à un moment donné. Ce qui va apparaître, c'est les dialogues et la description des scènes. Et si j'ai bien fait mon boulot en amont en tant que scénariste, alors le dessinateur a envie de traduire ça en image. Je suis vraiment je calque vraiment sur la petite musique que j'entends au moment où je relis mon découpage écrit. Et c'est ce qui m'amène cette succession d'images qui ne sont plus quelque part des cases, mais une séquence, une scène où il doit se passer quelque chose et où, en dehors de ce que je dois raconter, est-ce que je peux aussi raconter autre chose ? C'est-à-dire, parfois, j'ai créé ces effets de poussière à un moment où on parlait d'autre chose. Il y a eu beaucoup de réajustements aussi au fur et à mesure par rapport à des séquences donc, que je trouvais trop courtes, par rapport à l'impact voulu initialement. C'est-à-dire qu'au moment où on lit des phrases aussi, on lit des phrases avec des mots, ça prend un certain temps de lecture et qui vous paraissent idéales quand vous découpez 4 pages par exemple et que vous vous relisez, vous vous dites parfait, la 5e page on peut passer à autre chose. Quand ces 4 pages vous les voyez dessinées, vous pouvez à ce moment-là vous rendre compte que c'est beaucoup plus rapide à regarder et à lire des dialogues simples que de lire tout un pavé de texte. Et du coup, là, il vous manque, par exemple, 2 pages. Et vous vous rendez compte que effectivement, il va falloir rajouter un peu de temps de lecture pour que l'effet soit escompté. Et donc, je dirais que le dessin, il tombe par rapport à tout ça. C'est vraiment une déclinaison de ce que je ressens. Et je savais aussi que c'était un récit qui se passerait sur 2 jours seulement, donc ça va aussi très vite. Et j'avais envie d'une espèce de lecture un petit peu à la vitesse d'une balle, qu'on se pose pas de questions, qu'on tourne les pages, comme tous ces gars qui se mettent à courir de partout, à charger, à revenir sur leurs pas, à pas savoir où ils sont. J'avais aussi besoin de me mettre un peu dans cette situation-là. C'est particulier la traduction dessin texte sur un roman comme ça, mais c'était passionnant. Parce qu'effectivement, il y a une première journée qui est chargée d'émotions et de combats intérieurs, et cette deuxième journée qui, quelque part, est la revanche de cette première journée qui a été terrible, qui a beaucoup plus fait souffrir Henri que de se prendre une balle en plein cœur, et peut-être que c'est ce qu'il cherche le lendemain.
Steve Cusor, André Juillard, dans un entretien, évoquait sur la grande première partie de son œuvre, une peur du noir, d'utiliser un noir profond. Vous semblez très à l'aise avec le noir qui est présent dans énormément de cases. Comment l'organisez-vous dans l'image, dans la page et dans la double page? Est-ce qu'il y a une attention particulière pour le noir?
Le noir, ce qu'il faut savoir, c'est que plus votre personnage sera en silhouette, plus on comprendra le mouvement et la dramaturgie de la situation. Et vous avez beau, prendre, j'ai un exemple précis sous les yeux, par exemple, mais où tout d'un coup, il y a une salve de tir orientée vers une charge de soldats qui sont en train de courir de profil. Au départ, je l'avais pas forcément faite en silhouette, on voyait vraiment certains détails. Et quand vous reculez votre regard, c'est moi, une fois que j'ai fini ma page, je l'accroche, je la laisse reposer parce que ça me permet d'avoir du recul sur l'efficacité finalement et l'impact du graphique et dramaturgique. Et pour beaucoup d'exemples, j'ai repris la page en 10 minutes où j'ai effectivement amené tous ces noirs. Alors pour justement choper ces silhouettes et ces mouvements, où tout d'un coup, l'œil du lecteur, il n'y a rien de plus simple qu'une silhouette, qu'un contre-jour, et il y a juste à regarder les panneaux sur la route pour être compréhensible tout de suite. Plus c'est simple, plus c'est en général silhouetté au noir. Et donc ça amène aussi une autre façon de raconter. C'est aussi la place du lecteur au sein du conflit, au sein d'une explosion même, de se dire, tiens, à travers une explosion et de la poussière, on peut entrevoir des silhouettes de gars. Alors, est-ce que c'est des gars qui courent? Est-ce que c'est de la matière qui part en l'air? Est-ce que, on ne sait pas. Et ça permet aussi de donner la place au lecteur, je trouve.
Alors, Steve Cusor, quel dessinateur êtes-vous? Comment se fait le geste du dessin? Est-ce que c'est un geste posé, précis? Est-ce qu'il y a une tension ou au contraire, est-ce que vous allez vers une énergie graphique intense?
Ouais, moi je suis plutôt un excité de l'ancrage. Je m'explique, mais par exemple, moi je commence le matin, surtout crayonné, tranquille. Voilà, je pose mes cadrages, surtout, c'est ça qui m'importe. C'est vraiment la succession de cases, juste assez rapide, comme ça au trait, pour voir si ça fonctionne. Très vite, j'ancre la typo parce que ça me détend. Ça me fait la main aussi, c'est-à-dire que c'est un moment où voilà qui doit être où on doit se concentrer. Où j'aime beaucoup la typo, voilà, de ces anciens auteurs de BD où c'était parfait, très très propre. Et quelque part, votre main, vous commencez à la travailler par rapport à ce qui va venir l'après-midi. Et moi, l'après-midi, voilà, c'est l'ancrage. Et l'ancrage, en général, je mets une bonne musique bien forte pour ne pas penser à bien faire. Je ne suis pas en train de me, je suis pas en train de repasser un trait à l'encre. Là, c'est de l'ancrage pur. C'est-à-dire qu'il faut que ça déménage. Et il faut que les aplats noirs soient hyper efficaces. Je veux que chaque trait soit lancé, soit, ouais, une espèce d'énergie comme ça, assez violente parfois quand je me regarde faire. Et ça passe par ça. Quand j'étais plus jeune, j'ai passé des heures et des heures effectivement à regarder ma main en train d'ancrer, etc. On apprend beaucoup aussi à ce moment-là. Mais là, avec les années et l'expérience, on apprend aussi à se faire confiance. Et l'écriture, pour moi, c'est vraiment l'ancrage parce que c'est ce qu'on va voir au final. C'est le résultat de toute cette démarche de cadrage, de crayonné, d'écriture avant, etc. Donc, il faut vraiment que tout se passe à ce moment-là. Si vous trahissez chaque étape petit à petit, un petit peu, petit bout par petit bout, à l'arrivée, c'est comme si vous aviez fait énormément de concessions par rapport à l'idée de départ. Et je me relis toujours à la fin pour savoir, tiens, ce passage, une page écrite, case 1, case 2, case 3, je la relis et je regarde la page définitive en parallèle. Et si je vois qu'il y a beaucoup plus de pêche, alors j'ai gagné.
Le livre précédent, Les cinq branches de Coton Noir, va être adapté au cinéma. Il y a eu donc des droits qui ont été achetés par Hollywood. Qu'est-ce que ça va permettre, ce passage au cinéma pour vous?
Je vous avoue que c'est plus... Alors, le fait qu'effectivement, un jour, on nous ait appelé et que ça intéressait un producteur... En plus, noir américain, ce qui était invraisemblable parce que à ce moment-là, on est quand même au début, enfin, on est dans l'affaire George Floyd quand le bouquin sort et c'est assez chaud et les interventions de Trump complètement imbéciles amènent effectivement ce début, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un peu le Black Lives Matter et puis le wokisme, mais qui fait que l'édition de cinq branches qui était prévue chez un éditeur new-yorkais, par exemple, est annulée. Voilà, parce que on nous reproche d'être blanc et de finalement, à travers une fiction, exploiter l'histoire des Noirs américains. Donc ça a été compliqué. Et au final, qu'on ait ce retour d'un producteur, et donc qui était producteur sur le film Django Unchained, ça nous a franchement limite perturbé, parce que c'est le genre de rêve qu'on a quand on est gosse et qu'on fait des projets, on se dit mais on le verrait bien au cinéma. Là, tout d'un coup, ça nous arrive. Et je dirais que ça, c'est la première impression. Et puis le fait, tout d'un coup, qu'on vous regarde autrement aussi au niveau de, allez, on va dire, de l'éditorial franco-belge et de votre maison d'édition. Maintenant, le deuxième effet qui se coule, c'est que les Américains ont tendance à faire un peu ce qu'ils veulent, une fois qu'ils ont acheté les droits. Et c'est vrai qu'on a été soumis à trois ou quatre versions différentes du scénario. Et bon, avec Yves Sant, on s'est dit, bon, on laisse tomber. Ou on leur donne carte blanche et on s'en fout. De toute façon, il n'y a pas d'autres producteurs intéressés. Ou sinon, on leur dit d'arrêter, parce que c'est du grand n'importe quoi. C'est du super-héros noir américain. Enfin, on n'est plus dans l'espoir que les choses changent et que enfin ces gars-là trouvent leur place et soient intégrés à part entière comme citoyens américains, avec les mêmes droits réels et pas les mêmes droits juste sur le papier. Là, on est vraiment... ils ont déjà gagné, et donc bon, c'est... Ouais, c'est très perturbant. Alors, bon, on verra ce que ça donne. Je sais que Ça a été un petit peu reporté à cause des grèves des scénaristes à Hollywood, mais c'est en cours et je ne sais pas trop où c'en est. Je pense qu'on aura des nouvelles bientôt.
Merci beaucoup, Steve Cusor. Je vais rappeler les références de votre livre. Donc, Le combat d'Henry Fleming, adapté du roman de Stephen Crane. Ces 152 pages sont au prix de 26 euros. C'est publié par les éditions Dupuis dans la collection Air Libre. Et le livre a été imprimé en Belgique. Merci beaucoup, Steve Cusor, et à très bientôt.
À vous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Story. This life had many shades. I'd wake up every morning, and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, and then be on my way. I traveled far and wide, and lay this head in many ports. I was guided by a compass. I saw beauty to the north. Drew the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over, I wear it just for you. I got your name written here in a rose tattoo, in a rose tattoo.
Voilà, je voudrais terminer l'émission avec le grand large. Alors, le mouvement, le bouleversement intérieur de l'adolescence a suscité beaucoup de scénarios avec des entrées parfois fort différentes sur des moments de traumatisme particuliers, sur ces conflits intergénérationnels. Et le dernier livre de Jean Kremers, Le Grand Large, a trouvé un angle de vue, une approche tout à fait particulière, mais qui permet vraiment de rendre pleinement compte du mouvement de l'adolescence. Alors, le livre s'appelle Le Grand Large parce qu'il se passe sur la mer, quasi essentiellement. Et il y a un récit qui démarre par la violence, avec des parents qui lâchent leur fille dans la nature, qui l'obligent à quitter le foyer familial et donc d'affronter la vie dans toute sa diversité, de son intensité et donc sa violence. On a déjà une première épreuve pour Léonie qui va ainsi se retrouver sur une embarcation et partir sur la mer. Il y a une première rencontre avec Balthazar, Bal, qui est un autiste muet. Et on a une première association avec un proche, quelqu'un avec qui on sent une communauté d'esprit, comme beaucoup d'ados le font. Et donc, la mère va rapidement, dans le récit, prendre cette métaphore du monde dans toute son immensité. Il y a la rencontre après d'Agathe, une adulte abîmée par la vie, qui finalement renforce l'inquiétude des adolescents et parce qu'ils découvrent que grandir et vieillir peut être aussi extrêmement violent et que cette vision de l'avenir, ils n'ont pas envie de la partager. Jean Kremers va vraiment tisser avec une très grande efficacité ces liens entre cette vie en mer et sur la mer, avec par exemple un monde de nantis qui est organisé autour d'un très grand navire où il y a un ensemble de plus petites embarcations qui sont agrégées avec des pontons pour pouvoir vivre ainsi sur le grand large. Et ce bateau immense, eh bien, va symboliser cette violence du monde des nantis, cette confrontation avec une immoralité, une violence, une découverte de la violence du monde qui est ainsi marquée de façon très importante dans le récit. Il y a pour Léonie, pour Bâle, pour Agathe, une confrontation à ce monde et à essayer de garder sa dignité. Et ça a été ce que Agathe va révéler, va montrer à Léonie et Bâle, c'est qu'il y a des choix à faire pour que cette dignité soit apprise, soit conservée et qu'il y ait aussi une fidélité à certains de ces choix. Il y a dans cette métaphore du monde à travers la mer et le grand large une façon pour Jean Kremers de débarrasser le récit de tout un tas d'informations qui encombrent à la fois les relations, les dialogues, le dessin, et de pouvoir ainsi débarrasser les images d'une réalité qui va plutôt encombrer le récit, eh bien, se retrouve extrêmement efficace. Et cette métaphore de l'adolescence fonctionne vraiment à merveille. Il y a un récit qui va se donner beaucoup d'ampleur puisque il fait 258 pages, ce qui permet à Jean Kremers d'avoir des scènes où on n'est pas dans cette sorte d'injonction d'un récit d'une grande densité où lorsqu'il y avait principalement 48 ou 62 pages de récit, il fallait tout condenser, faire plusieurs volumes. Là, on a un seul titre et cette façon de mettre en image le récit dans sa précision, dans son déroulement, avec des moments gratuits, c'est-à-dire où on n'est pas sans arrêt à devoir justifier une scène par rapport à l'ensemble du récit. Il y a aussi dans la mise en scène de Jean Kremers, de la même manière que Steve Cusor l'a fait pour le combat de Henry Fleming, cette adoption d'une hauteur d'image qui va être très régulière, avec quelques variations, mais on est sur un trois bandes avec cette hauteur de case qui est quasi constante. C'est très efficace sur la lecture parce que on est tout le temps dans ce récit, dans cette immersion au niveau du grand large et de ce territoire qui est d'une très grande sobriété et qui pourtant va ainsi à la fois s'animer avec donc un ensemble de scènes qui donne vraiment une grande variation au récit, et puis des moments tout à fait magiques comme un vol de Raymanta ou au contraire des scènes avec des mammifères marins, des baleines qui sont assez étonnantes. Léonie, Bâle et Agathe, eh bien, sont les trois personnages de ce deuxième livre, de ce deuxième roman graphique de Jean Kremers, Le Grand Large, et cette métaphore de l'adolescence, eh bien, fonctionne pleinement. Il y a en plus une sensibilité graphique, une intensité du trait, une énergie dans le dessin qui va parfaitement avec le récit et avec ses inquiétudes et ses poussées d'angoisse qu'il peut y avoir au moment de l'adolescence. Le Grand Large de Jean Kremers a été publié aux éditions Glénat. Les 258 pages de ce récit sont au prix de 24,50 €. Merci Fabien pour cette technique. Et puis nous, on se retrouve à la semaine prochaine et bon après-midi sur les ondes de Radio Escapade.
Écriture dessinée.